Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts à continuer avec moi cette série de podcasts consacrée à la posture et surtout au lien entre posture et performance mentale et cognitive. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous partager un super interview que j'ai fait, non pas d'une personne, non pas de deux personnes, mais de trois personnes qui sont spécialistes en neuroposturologie. On est donc ici en plein dans le cœur de la thématique de ce mois d'avril 2021. Alors, qu'est-ce que la neuroposturologie ? Très bonne question. En fait, c'est apprendre à utiliser les mécanismes de notre cerveau, les mécanismes du remodelage neuronal, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast, pour corriger la posture d'une personne. Et la neuroposturologie est également l'autre versant de la médaille, on va dire, la science des effets de la posture sur la cognition. Autrement dit, en neuroposturologie, on s'amuse à remodeler notre cerveau pour améliorer notre posture. Posture qui, elle-même, à son tour, va améliorer notre cerveau. On est donc ici, via cette discipline-là, dans une vraie démarche vertueuse. Alors, dans ce podcast, comme vous le remarquerez par vous-même, on parle avant toute chose de sport. Pourquoi ? Parce que l'application de la neuroposturologie au domaine sportif est la spécialité d'Adrien, de Sébastien et de Romain qui sont mes trois invités de la semaine. Mais il reste pourtant que les conseils qu'ils vont vous livrer et qu'ils vont vous donner durant cet épisode sont et restent parfaitement applicables pour des actifs comme vous, dans un contexte tout autant professionnel que personnel. Enfin, avant de vous laisser écouter cet échange, je tiens à vous dire, je tiens à vous préciser que je n'ai fait strictement aucun montage pour ce podcast. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que naturellement, vu que j'ai fait face à trois personnes en simultané, il y a parfois, durant l'échange, des blancs, des silences, car eux ne savaient pas qui allait prendre la parole pour répondre à la question que j'avais posée. Pourquoi je n'ai pas voulu monter cet épisode ? Car, comme tous mes interviews, mon but est uniquement de vous partager un échange entre moi et des gens. Et dans la vraie vie, quand il y a des blancs, on ne va pas les couper. Les blancs sont naturels, ça fait partie d'un échange, et pour moi, encore une fois, c'est le côté humain que je recherche dans ces interviews. Donc j'espère que vous le comprendrez. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, bonjour à vous trois.
Salut.
Salut. Salut.
Donc déjà, trois personnes en podcast, c'est la première fois que je fais ça. On verra bien. C'est un test pour moi.
Ouais, bah super.
Déjà, ce que je peux vous laisser vous présenter un peu, parce que vous collaborez ensemble sur un projet de neuroposturologie, donc un terme déjà peu connu du grand public, on va dire. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter également ce concept dans la foulée, si possible ?
Ouais, aucun souci. Qui attaque sur la présentation ? Alors qu'on se batte ?
Ouais, vas-y, Romain. Vas-y, Romain. T'as la voix okay. Chaude.
Romain Cacciavenda. Donc, mon métier, c'est préparateur physique. J'officie en ligne et en direct avec différentes typologies d'athlètes. Et en fait, la neuroposturo, comme on va l'expliquer plus loin, fait partie d'une des bulles d'intervention que j'ai au travers de la préparation physique. Ça fait 12 ans que j'officie en tant que préparateur physique. En centre de formation en football, donc centre de formation de Ligue 1, j'ai eu quelques équipes avec qui j'ai collaboré qui sont à haut niveau, donc en Pro League, en handball, ou alors des athlètes individuels qui sont de niveau national à international en athlétisme. Donc ça fait 12 ans que je fais ça, et mon idée derrière la préparation physique, c'est de permettre une amélioration de performance significative de l'athlète qui est en face de moi. Et pour ça, j'utilise pas mal de petits outils qui permettent d'aller chercher un peu plus loin ce qu'on peut appeler l'individualisation. Ces outils sont bien évidemment transférables au monde de l'entreprise et au monde de la population générale, où on cherche en fait à avoir des performances maximales, que ce soit pour le travail ou pour la vie de tous les jours. Voilà, pour moi.
À quel tour ?
Super, fin du podcast.
L'épisode très court aujourd'hui. Donc, à quel tour ?
Je vais y aller, ça marche. Alors, Sébastien Zimmer, donc j'ai un master en sciences du sport de l'Université de Strasbourg que j'ai validé il y a un peu plus. À l'inverse de Romain qui, lui, fait beaucoup de préparation physique, moi j'en faisais beaucoup avant, c'était, on va dire, mon activité principale. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de posturo et de neuro posturaux, on peut l'appeler ça comme ça, ce qu'on va développer tout à l'heure. Actuellement, je travaille avec plusieurs athlètes en individuel, c'est-à-dire que j'ai pas de club affilié, on va dire, pour le moment en tout cas. Et donc c'est souvent, surtout dans ce type de suivi, et toujours de poursuivre, on va dire, dans ce domaine des neurosciences qu'on va toujours développer tout à l'heure. Je travaille en collaboration avec un laboratoire de recherche ici même à Lausanne. Ça s'appelle Sensory Motor Lab.
Mmh. Et voilà. Ok, super.
Ok. Bah, moi, c'est Adrien Chartier. Donc un peu comme Seb, hein, à la base je suis dans le coaching sportif préparation physique depuis 2004. Moi je suis issu de brevet d'état et donc voilà, au cours de ma formation, j'ai découvert tout ce qui était d'abord, dans un premier temps, l'approche fonctionnelle. J'avais toujours des petits trucs qui subsistaient avec mes athlètes et ça me gênait de passer énormément de temps sur ces approches fonctionnelles pour peu de résultats dans la plupart des cas. Donc j'ai continué à m'intéresser à tout ce qui était biomécanique, etc., etc. Puis à un moment, j'ai eu la chance de découvrir au cours d'un week-end sur un séminaire de prépa physique et de posturologie pour le haut niveau. Bah, j'ai découvert la posturologie. Ça m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à me former un peu plus dans ce domaine-là et je me suis tellement formé que petit à petit, j'ai délaissé le côté prépa physique. Donc je coach quasiment plus trop en prépa physique, j'ai encore un ou deux athlètes pro ou semi-pro et puis j'ai arrêté tout ce qui est Gen Pop comme population générale comme disait Romain et du coup, je me suis vraiment ouvert à la posturo depuis quelques années maintenant, la neurologie fonctionnelle, les réflexes archaïques. Je fais quasiment que ça en cabinet. Et je travaille en parallèle pour aussi une fédération de sport. Je suis conseiller technique national et donc je suis en charge de tout ce qui est formation. Donc voilà, donc si j'ai deux passions en ce moment, bah, c'est surtout la posturologie et la formation. Donc voilà.
Super. Et du coup, qu'est-ce que la neuroposturologie maintenant, en détail ? Grande question.
Yes. Alors en fait, je me permets, hein, les gars. On s'est formé en posturo, mais à côté de ça, on s'est formé aussi en neurologie fonctionnelle. C'est tout simplement, c'est quoi, tu sais, bien souvent les gens quand ils s'intéressent au mouvement, ils s'intéressent à tout ce qui est biomécanique. Et nous, on s'est intéressé un petit peu à ce qui crée le mouvement, donc ce qui se passait au niveau du cerveau. Et tout simplement, bah, la neurologie fonctionnelle, c'est quoi ? C'est la biomécanique, mais du cerveau, ce qu'on pourrait appeler de la neuromécanique. Donc, comme on s'est formé pas mal en posturo, hein, je parle pour Seb, il a fait 4 ou 5 fois la formation posturo, j'en ai fait aussi des différentes, etc. On s'est formé tous les trois en neurologie fonctionnelle, on allait se former dans les réflexes archaïques, et à chaque fois auprès de plusieurs écoles, et on s'est aperçu que, bien souvent, quand tu étais dans une école de posturologie, on te parlait un petit peu de réflexes archaïques, de neurologie, etc. Mais quand tu allais dans une formation de neurologie, on te parlait un peu de posturologie et de tout ce qui était transversal, mais personne ne faisait vraiment les liens. Et nous, on s'est dit, bah, c'est dommage de pas faire les liens. Et pourtant, c'est ce qu'on applique, nous, depuis des années. Depuis qu'on s'est formé, on applique un petit peu ce mélange d'horizons où on n'applique pas que de la posturologie ou que de la neurologie fonctionnelle. On fait travailler les deux en même temps. On met en même temps aussi les réflexes archaïques et puis transversal, on va peut-être en parler plus tard dans le podcast. Et donc, on a vraiment constitué un socle en faisant des liens entre les différentes approches, parce qu'il y a des liens qui sont quand même très très forts, il y a des choses qui viennent avant d'autres dans ces suivis-là. Et donc, voilà, c'est tout simplement ça qu'on a voulu mettre après un petit peu sur le devant en faisant notre formation et nos suivis par la suite, quoi.
Super, ça marche.
Je sais pas si c'était clair.
C'est très clair, très très clair. Et du coup, maintenant, le terme de réflexe archaïque fait quoi à quoi ? C'est tout ce qui est réflexe inné, ancré dans le cerveau, on va dire. Typiquement, l'appréhension du bébé quand on lui tend son doigt et qu'il le saisit par la main, c'est ça ? Ou pas du tout ?
C'est parfait. Voilà. T'as tout bien résumé.
Ok, donc je vais faire partir sur votre place.
Réflexe archaïque. Ouais, c'est... Mais super. Non, mais il y a 72 réflexes archaïques. dans ces 72, forcément, nous, on va se centrer sur des réflexes archaïques qui sont vraiment importants parce que tu as des réflexes archaïques. C'est un peu comme le sport, tu sais. Au niveau bioméca, tu as des choses qui se... Tu sais, tu as des muscles qui vont faire du mouvement qui sont agonistes. Tu en as d'autres qui sont antagonistes. Tu as des muscles qui sont synergistes. Et c'est pareil avec les réflexes archaïques. Donc, en fin de compte, nous, on va se cibler sur quelques réflexes archaïques qui sont principaux au niveau de l'ontogénèse, donc, tu sais, dans le développement de l'être humain. Et à partir de ces réflexes archaïques là, on va permettre aux gens de recréer un schéma de développement qu'ils avaient peut-être oublié ou peut-être qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient jeunes parce qu'il a manqué des choses dans leur développement, tu sais. Et les réflexes archaïques agissent sur tout ce qui est moteur. Et comme au niveau du cerveau, ce qui est moteur permet de développer ensuite tout ce qui est l'émotion et la cognition. Et avec les réflexes archaïques, ça nous permet d'agir sur ces trois sphères. Donc c'est assez global, tu vois.
D'accord. Moi, typiquement, mon fils qui a rampé que d'une seule jambe, ça peut créer des incidences par la suite.
Exactement. Après, on cherche pourquoi il a rampé que d'une seule jambe. On essaye de réintégrer certaines choses et on travaille ça autant avec des jeunes parents parce qu'ils s'aperçoivent que leur enfant, il a rampé que d'un côté. Autant on va le travailler avec des enfants un peu plus vieux ou adolescents parce que ils vont avoir des problèmes au niveau émotionnel ou cognitif, surtout à l'école, hein, tu sais, tu le ressens dans les troubles préscolaires. Et on va le travailler nous, et là c'est ce qu'on fait avec Labo, c'est surtout avec du sportif ou en guise de je dis entre guillemets thérapie. Parce qu'on n'est pas thérapeute, mais on travaille surtout en lien avec les kinés, etc. Donc, on va le mettre ça en guise de suivi thérapeutique ou sportif pour faire performer les gens avec qui on bosse, quoi. Moi, les gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des gros déséquilibres, des troubles, des douleurs, etc., etc.
Ok, super. Et tu parles, vous parlez plutôt tous d'humeur par rapport à la posture. Du coup, quel est le lien entre l'humeur et la posture? Ça se joue à quel niveau? Au niveau du système nerveux? Au niveau du plexus solaire? Ça se joue au niveau du corps?
Je laisserai répondre quelqu'un d'autre, sinon je vais trop parler. Moi.
Alors, je pense qu'Adrien, il pourra peut-être plus parler d'humeur que moi, dans le sens où, comme il est beaucoup spécialisé dans tous les réflexes archaïques, on en parle un petit peu plus qu'en neuro, dans le sens où, quand on parle neuro, on s'intéresse plus à tout ce qui est mouvement, de manière générale. Donc, maintenant, ce que je peux te dire, c'est que de toute façon, et Adrien l'a très bien introduit, c'est que ton mouvement va introduire la qualité de ta gestion cognitive et émotionnelle. Donc, encore une fois, si ton mouvement n'est pas bon, forcément, il y aura une répercussion sur ces deux niveaux. Donc, ce que je peux te dire pour répondre assez simplement, c'est où est-ce que ça se joue au niveau du cerveau? Oui, tout à fait, c'est ce que tu l'as dit, mais de toute façon, tout se joue au niveau du cerveau. Maintenant, le fait d'explorer ton mouvement, on va dire par différents moyens, que ce soit au niveau segmenté, tout ce qui est proprio-visuel, etc., ou de manière un petit peu plus intégrée, comme tout ce qui est les patromoteurs, si on peut appeler ça comme ça, c'est par ces biais que tu peux agir sur ton humeur. Mais c'est une boucle rétroactive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, pour schématiser assez simplement, le mouvement peut améliorer ton humeur, mais l'humeur peut avoir une incidence négative sur ton mouvement. Donc c'est une boucle rétroactive où l'un va impacter l'autre.
Bien sûr, les gens un peu dépressifs qui ont les épaules baissées, la tête baissée, etc. Typiquement, c'est un exemple.
Yes, tout à fait. En plus, ils ont déjà fait des études là-dessus entre l'impact entre la posture et l'émotionnel. Après, c'est vrai que, comme Seb le disait, il y a un gros lien émotionnel dans les réflexes archaïques, mais ça fait pas tout. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on travaille et c'est ce qu'on s'est aperçu au fur et à mesure des années. C'est... souvent, tu sais, quand tu vas voir quelqu'un qui était formé dans un domaine, il va te vendre son domaine comme étant le remède miracle, tu sais. Et en fin de compte, c'est là où on se retrouve bien avec Romain et Seb, c'est que on n'est pas trop de cet avis-là. On pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Comme exemple, je vais te dire, moi je me suis formé en hypnose, tu sais, PNL, sophrologie. Je me suis formé un peu dans tous ces domaines aussi. C'est super. Donc tu vas me comprendre. Mais souvent, quand tu fais une formation en hypnose ou tu suis des gens, tu regardes des gens qui bossent un petit peu avec ton qui sont hypnothérapeutes, ils vont te dire, moi j'ai quelqu'un qui vient me voir et je sais que c'est l'hypnose qui va l'aider. Par exemple, je prends un truc tout bête, mais la nutrition. T'as du mal à perdre du poids, c'est l'hypnose qui va t'aider à changer ça. Mais le coach sportif, il va te dire quoi? Non, c'est le sport qui va t'aider. Viens me voir. Le diététicien, il va te dire, mais non, c'est tout est dans la nourriture. Mais en fin de compte, est-ce qu'il y en a un des trois qui a tort, tu vois, ou est-ce qu'ils ont raison tous, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt mixer toutes ces approches, tu vois?
Non, mais c'est comme disait, et donc, nous, c'est comme un disait peu Pareto, grosso modo, quand t'as un marteau à la main, tout ressemble à un clou. Mmh. Au final.
Exactement ça. Et finalement, on a fait la même analogie il y a peu de temps dans un autre webinaire. C'est excellent. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Si t'as qu'un marteau, que t'as des vis, t'as des clous, je sais pas moi, t'as des chevilles molles, tu vas essayer de tout rentrer avec ton marteau. Alors que si t'as une boîte à outils et que t'as une perceuse, une visseuse, tu vois, un tournevis, peu importe tous les outils qui existent, tu vois, je suis pas du tout manuel, donc je vais arrêter là avec la comparaison. Mais voilà, bah, forcément, tu vas peut-être plus vite matcher. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de travailler sur tout. Tu vois, quand on fait un bilan, qu'on fait un suivi avec quelqu'un, ou même dans notre formation, c'est ce qu'on essaye d'inculquer. Il n'y a pas une entrée qui est valable. C'est plusieurs entrées, et on essaye de d'utiliser toute notre caisse à outils pour aider rapidement les gens. Donc voilà, ce qu'on trouvait qui manquait un petit peu de sens dans le reste, parce que tu vois, nous, il a fallu qu'on fasse chacun une centaine de formations pour arriver à comprendre des choses, et c'est ce qu'on trouve un petit peu dommage, parce que tout fait lien.
Oui, c'est là que c'est intéressant, parce qu'en soi, on a de nombreux domaines qu'on voit des liens que les autres ne voyaient pas jusqu'à présent. Et c'est là qu'on apporte une réelle valeur ajoutée, je trouve.
Ouais, c'est ça. Ça, apporter une valeur ajoutée, et puis surtout, une valeur ajoutée bah, pour nous, mais surtout pour la personne qui vient nous voir, parce que ce qu'elle veut, elle, c'est elle vient voir quelqu'un qui a vraiment une problématique. Là, la posturologie, c'est peut-être pas encore forcément méga développé, tu sais, mais les gens qui viennent nous voir en tant que posturologue ou pour l'approche neurofonctionnelle, etc., tu vois, qu'on vend, ben, ils viennent nous voir souvent en dernier recours. Ils ont déjà vu X médecins, kinés, etc. Et donc, voilà, ils sont au pied du mur, ils viennent nous voir, ils attendent une réponse, un peu l'ultime réponse. Donc, on essaie de travailler sur tout.
D'accord, ça marche. Une petite question que je voulais aborder avec vous rapidement. La différence entre posture et position, c'est laquelle? Parce que souvent, on fait l'amalgame entre les deux. Mmh. Qui se dévoue pour répondre?
Romain, elle n'a pas encore parlé.
Romain, elle n'a pas encore parlé. Romain, vas-y.
La posturologie, c'est l'étude de la statique, et donc du coup, c'est comment tu te tiens quand on te regarde de profil, de face. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos d'un examen en posturologie où on va prendre de plein pied de face et on va regarder la ligne des épaules, la ligne du bassin, regarder un peu la verticalité, etc. Les positions, c'est les enchaînements dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans la dynamique. Et on va parler dans le sport de positions de force, qui sont des positions clés que tous les grands champions vont utiliser, avoir dans leur pratique, et avec des moments de transition entre les différentes positions. La posture, c'est vraiment l'étude de la statique.
Je sais pas. D'accord, quand on ne bouge pas, quand on est immobile, c'est une.
Généralement, la c'est posture, une, c'est une, comment tu te posture. Tiens. Ouais, comment tu te tiens debout de manière naturelle. Et de cet examen-là, on va pouvoir tirer on va faire des assumptions, on va driver un testing en fonction de ce qu'on observe. Si tu as les épaules enroulées vers l'avant, on va aller tester tout ce qui se situe au niveau du cervelet. Si, par contre, tu as plus un plan scapulaire, donc les omoplates qui sont vraiment en arrière de la verticale, on va regarder autre chose. Et en fait, l'étude de la statique est une manière d'avoir un aperçu de comment ton système nerveux gère ton corps dans l'espace. Voilà ce que je pouvais dire. Je pense qu'il y a des choses à rajouter.
Ouais, en fait, la posture, elle est inconsciente, tout simplement. C'est ce que disait Romain, c'est naturel. On ne cherche pas à la contrôler. Ouais,
et en fait, pour poursuivre encore un petit peu là-dedans, la posture que tu as, elle est, comme disait Adrien, elle est inconsciente. Et tout acte que tu essayes de faire pour la corriger sera une position. C'est-à-dire que si maintenant tu vois que tu as les épaules arrondies, c'est ta position naturelle, qui a un certain coût énergétique. Okay, si maintenant tu vas vouloir, oh, j'ai les épaules en avant, je vais vouloir les rétracter, ben là je vais prendre une position d'épaule rétractée qui va augmenter ce coût énergétique qui, à la base, va à l'encontre de ce qu'on cherche à faire finalement. Et le but de dire la posture, elle est réflexive, elle est inconsciente, c'est que elle est le reflet de comment ton système nerveux il est. Est-ce qu'il est optimal ou est-ce qu'il n'est pas optimal? S'il n'est pas optimal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être des aires cérébrales, si je puis dire, ou des qualités d'information qui ne sont pas bonnes, ou des réflexes qui ne sont pas intégrés. Il y aura une répercussion directe sur ta posture, qui est inconsciente, qui elle-même aura une conséquence directe sur tes positions.
D'accord, ok. Donc, tout est vraiment lié.
De toute façon, oui. De toute façon, si tout est toujours lié, une fois à dire que ça égale ça, ben, c'est un peu complexe, tu vois.
Bien sûr. Et là, tu parles de coût énergétique, Sébastien. Ouais. Une chose qui m'a marqué quand j'ai pris votre e-book,
ouais.
Vous vendez sur votre site, parce que je l'ai acheté pour voir un peu ce que vous faites, parce que ça m'intéresse ouais. beaucoup. Vous faites un gros distinguo important, bah pas un distinguo, pardon. Vous mettez un accent assez important sur le fait que la posture, logiquement, se fait pour minimiser les dépenses énergétiques.
Bah,
on est d'accord.
Bah en fait, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que demander, par exemple, je vais prendre un exemple assez facile. Demander de faire un squat, ça demande une certaine quantité d'énergie. OK ?
Yes.
Faire un squat quand tu es tordu de partout et que tu essaies à peine de lutter contre la gravité pour tenir debout et on te demande de soulever un poids, bah forcément, ton coût énergétique sera encore plus grand parce que tu mets une double charge finalement. La charge de lutter contre la gravité et la charge de lutter contre le poids que tu as sur les épaules. Et du coup, l'idée à travers la posturologie, c'est ça, c'est rééquilibrer tout le système, avoir le moins de coût énergétique que tu peux après que tu peux mettre finalement sur la barre au squat, si je peux prendre l'illusion.
Ça marche.
Ah, c'est tout à fait.
Et si on transpose ça au monde professionnel, ça donne quoi ? Un mec qui a une mauvaise posture au travail, on le voit très souvent sur une chaise, qui est avachi, qui croise les jambes d'une mauvaise façon. Comment ça peut induire son énergie, sa motivation, sa cognition ? Est-ce qu'il y a des incidences, des répercussions par rapport à ça ?
Je sais pas, par exemple.
Je vais juste prendre l'exemple. Alors, est-ce que c'est vraiment le travail qui dérègle toute cette posture ou est-ce que la posture elle est déjà déséquilibrée à la base ? C'est la question. Maintenant,
c'est un peu l'œuf ou la poule.
Voilà. Et moi, ce que je peux te dire, c'est que je vais utiliser le cas concret là que tu viens de dire avec les épaules en avant, ok, par rapport à son ordinateur.
Ouais.
On sait que ton cervelet, il est là pour activer tes extenseurs. Donc, potentiellement, ça va activer les extenseurs au niveau des épaules, donc te redresser. Donc, si maintenant tu as les épaules avachies, tu auras peut-être une immaturité, on peut appeler ça au niveau du cervelet. En plus de ça, il faut savoir que les parties latérales du cervelet sont essentiellement dédiées à la cognition et à la concentration, etc. Donc, ça veut dire quoi ? C'est que fondamentalement, si tu as les épaules en avant, c'est peut-être le signe pour moi qui me dit tu as peut-être un problème au niveau de ton cervelet. Et donc, tu as peut-être des problèmes au niveau de la concentration, au niveau de calcul, etc., etc. Donc, c'est plus par rapport à ça. Donc, en quoi la posturologie et donc les épaules en avant va aider à la cognition ? En fait, c'est juste la même chose.
D'accord, ok. Ça marche. C'est...
Est-ce que tu as compris ou tu veux que je développe un peu ou...
Ouais. Non, j'ai compris. C'est super intéressant. Bah, ok, parfait. Un peu, c'est toujours intéressant d'aller plus loin. Mais aussi, est-ce que la position assise, justement, qui maintenant est un fardeau, on le sait très bien, au niveau du dos, etc., c'est un vrai, c'est destructeur, on va dire. Est-ce que ça aussi, ça a des incidences sur la posture au quotidien ? Et donc, tout ce que tu as dit en termes de cognition, etc.
Ça, c'est en fait, ça paraît c'est tout simplement logique. En effet, depuis des millénaires, c'est pour bouger. Et en fait, on devient de plus en plus sédentaire et on ne bouge plus. C'est-à-dire que quand tu es posé, parce que maintenant, tu sais, quand tu vas au travail, qu'est-ce que tu cherches ? Un fauteuil de plus en plus confortable, parce que tu es posé dessus toute la journée. Donc, tu te relâches complètement. Tu n'as plus aucune activité musculaire, etc. Donc, tout à l'heure, c'est vrai que tu disais c'est l'œuf ou la poule, mais en fin de compte, tout contribue. Peut-être que tu avais déjà des déséquilibres, mais peut-être que ça renforce encore plus tes déséquilibres parce que tu n'as plus l'accès à la motricité. Et dans beaucoup d'exercices que l'on donne, par exemple, pour au niveau neuro, ou au niveau réflexe archaïque, c'est des exercices de motricité, après qui ont un but, bah, venir faire travailler le cervelet, le système vestibulaire, etc., etc., tu sais, corriger certaines postures, ainsi de suite. Mais là, si tu donnes plus du tout accès à la motricité toute la journée, bah, ça va aller de pire en pire. Peut-être que c'est pour ça aussi que les gens qui sont le plus sédentaires, bah, on les retrouve avec beaucoup de douleurs, et plus ça persiste, et bah, tu retrouves des gens qui, à l'approche de la soixantaine, ont de plus en plus de difficultés à se mouvoir. Et on le retrouve là actuellement, maintenant avec des jeunes qui ont la vingtaine, parce qu'ils passent leur temps devant la télé, les jeux vidéo, etc., ou enfermés, alors que... On n'est pas très vieux, tu sais, mais il y a quelques années, on était quand même moins enfermés. On allait sortir, on courait partout. Quand tu étais jeune, tu courais tout le temps, tu sais, tu allais faire du sport. Je sais pas, tu rejoignais tes potes, tu faisais des foot dehors. Là, ça se fait quand même un petit peu moins. Et du coup, ben, il y a de plus en plus de sédentarité, de plus en plus de jeunes qui viennent nous voir maintenant avec des douleurs.
Et comment on peut pallier à cette sédentarité aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des solutions, des outils concrets, des routines à mettre en place efficaces ?
Ouais, supprime tes abonnements Netflix.
J'en ai pas.
Arrête de jouer en réseau.
J'en ai pas non plus.
Arrête de jouer en réseau. Non, mais je parle pas pour toi, mais tu vois,
c'est bien.
C'est les trucs quand même actuels, tu vois, qui prédominent. Je sais pas, Je vais te donner l'exemple. Donc, tu vois, t'as un jeune enfant, on en avait déjà parlé la dernière
Yes.
fois en plus. Si pareil, tu vois, j'ai un jeune enfant, il a 3 ans et demi, j'impose des moments de jeu dehors, tu vois, pour pas qu'on reste
Nous aussi, hein.
figé à l'intérieur, etc.
Même par rapport au soleil, la vitamine D, c'est super important. Il y a plein d'éléments
Ah
qui jouent,
ouais, bah
quoi.
tu vois,
C'est essentiel.
tout est multifactoriel.
Ouais, tout
On
est
peut
lié. De
pas
toute
se
façon, on est
contenter
fait
d'une
pour vivre
chose.
dehors et pour bouger. L'évolution l'a montré. Ça fait quoi? Ça fait quelques années au final qu'on est vraiment assis, assigné à résidence. Encore plus en ce moment d'ailleurs. Mais les conséquences, on le paye directement, quoi.
C'est ça.
Et du coup, moi, c'est que j'ai une routine par rapport à ça que je mets en place au quotidien. Donc, je vais la faire évaluer par vous rapidement. Grosso modo, je dirais 2 fois par jour, 2 à 3 fois selon ma motivation et le fait que je l'oublie ou pas. Je fais tout ce qui est, on va dire, étirement au niveau de la nuque, avant-arrière. Je fais aussi position des yeux, donc regard un peu latéral pour balayer un peu la pièce, parce que je sais que l'ordinateur crée un point fixe au niveau des yeux qui peut créer des déséquilibres par la suite. Et puis une perte aussi d'acuité. Tout ce qui est aussi rotation externe au niveau des épaules, rotation des genoux et rotation du bassin. Est-ce que c'est des mouvements intéressants à mettre en place au quotidien, justement pour pallier un peu une position assise récurrente, ou pas?
Intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu ne cibles que le proprioceptif, à savoir au travers de la nuque, de l'épaule, du bassin et des genoux, avec un tout petit peu
Yes.
d'oculaire.
Ouais.
Dans notre approche RNP, l'idée va être de cibler interoception, extéroception, proprioception, plus tout ce qui est oculaire. Donc là-dedans, on comprend oculaire, vestibulaire, proprioceptif. L'objectif de base, en fait, pour nous, c'est d'identifier quelle est la zone sensorielle ou les capteurs sensoriels qui posent souci et d'aller les adresser directement. Il faut en fait que tu imagines que ton corps, quand il bouge, il y a 100 informations qui partent à la seconde du lobe frontal, du cerveau. D'accord? Si tu as des déséquilibres, le corps et le cerveau vont toujours chercher la survie, donc à gérer ces déséquilibres. Donc, il va utiliser une partie de ce 100% en fonction de tout ce qui se passe autour de lui pour gérer le déséquilibre de prime abord. Et d'abord ça. Notre objectif en tant que préparateur physique et praticien RNP, c'est d'aller limiter et réduire les menaces et donc les adaptations et les compensations qui ne vont pas dans le sens de la performance et retrouver progressivement un 100%. L'objectif, donc ta routine est très bien, mais elle n'adresse entre guillemets que du proprioceptif et une toute petite partie du visuel. L'objectif pour nous est vraiment d'identifier, je vais te donner un exemple avec le vestibulaire. Le vestibulaire, c'est l'oreille
Peux-tu
interne.
déjà définir le vestibulaire? Voilà, l'oreille
Et
interne.
l'oreille interne, c'est tout ce qui va te permettre de gérer l'équilibre, que ça soit en statique ou quand tu marches. Si tu as un problème au niveau de l'oreille interne à droite, il y a plusieurs organes, plusieurs tests, etc. Si tu as un petit problème au niveau de l'oreille interne à droite, tu vas vouloir monter les escaliers. Tu as 100 informations qui partent pour monter les escaliers. Tu as ton problème vestibulaire. Le corps, il va vouloir compenser ce problème vestibulaire pour ne pas que tu tombes. Et il va peut-être utiliser 20% de l'information qui part au tendon pour compenser un éventuel et le déséquilibre pour ne pas que tu tombes. Ce qui veut dire que tu montes les escaliers, entre guillemets, avec 80% de ta capacité maximale. Notre objectif est donc d'identifier en fonction des différentes entrées sensorielles, quelles sont celles qui posent souci chez toi. D'un point de vue général, le proprioceptif est très intéressant. Donc, les mouvements de nuque, avant-arrière, c'est très bien, mais est-ce que tu peux les faire de manière latérale? Est-ce que tu peux faire des cercles? Est-ce que tu peux faire des 8? Ensuite, au niveau des yeux, il y a tout ce qui est convergence. Il y a plein de petits tests et plein de petits exercices qui vont retravailler en fait toutes les sphères sensorielles. Et notre objectif est d'utiliser différentes approches de manière à cibler quelles sont celles qui te
Si,
sont
si, en gros, c'est cibler ton
propres
cibler
et
ton
qui
maillon
sont
faible.
nécessaires
Si tu
pour que
rends
tu
moins
te
bon, que
rapproches
tu
de ton 100%.
travailles pour que toute
En
ta
gros, c'est ça
performance, c'est la même
l'objectif. Je
chose
sais
en
pas si j'ai
prépa
été
physique, c'est de
clair.
la prépa, mais en
Si,
euros.
si, c'est très,
Et
très
tu
clair.
cibles ton maillon faible pour que toute ta performance augmente,
Voilà.
quoi, au final.
Et
Ça,
du
on n'est
coup,
jamais
tu
plus
peux te
fort que son maillon
retrouver
faible.
avec des. Ouais, et tu peux te retrouver avec des personnes où on parlait du cervelet. Le cervelet, la partie centrale, va gérer beaucoup ton équilibre, la partie latérale, les extrémités du corps. Si tu as un souci de proprioception au niveau du poignet, par exemple, avec un poignet qui s'engourdit, etc. Peut-être que rajouter dans ta routine des mobilisations du poignet, des mobilisations complexes, type des cercles, des 8, des choses comme ça au niveau du poignet, t'aidera plus qu'une mobilisation des hanches, d'un point de vue neuro, et te permettra de gratter vers ton 100%.
Ok, je vois, je vois. Et du coup, la question qu'on doit souvent vous poser par rapport à tous ces conseils-là, c'est quand est-ce qu'on trouve le temps de faire ça? Parce que ça prend du temps, mine de rien, non?
Mais pas du tout.
Pas du tout.
En fait. C'est okay. Ça le... Mais c'est pour ça que je te rappelle ce que je te disais dans ma présentation. J'étais. Je m'intéressais beaucoup au fonctionnel. Moi, on a tous les trois commencé comme ça. Hein. On s'entraîne au fonctionnel parce que c'est les outils qu'on nous proposait il y a quelques années en arrière. Et des outils qui sont connus, etc., qui sont vachement sur le devant de la scène. Je ne vais pas m'étaler sur les différents outils. Je ne suis pas là pour critiquer parce que toutes les approches sont complémentaires. Mais on passait. Des fois, tu sais, tu donnais des programmes d'entraînement. Tu avais quelqu'un qui a, tu regardais les problèmes affectueux des squats, mobilité de cheville, tu donnais un programme et il en avait pour 15-30 minutes par jour, quoi, tu vois, à peu près. Là, avec la neuro, l'avantage, c'est, bah, tu as pu le voir dans notre petit guide, dans notre petit book, c'est des petits exercices qui vont durer entre quoi? Allez, 20 secondes à une minute, tu vois. Et en général,
en fait,
tu vas
c'est marrant parce
faire,
que tu dis que ça prend du temps. On va prendre le cas d'un sportif.
Tu vois,
non,
jour,
non seulement tu ne lui fais pas 3, 4 perdre 4 plus de temps par ses exercices, mais tu lui en fais gagner. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tout acte moteur est à la base sensoriel. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton échauffement musculaire, neuromusculaire, tu appelles ça comme tu veux, qui va durer 20, peut-être 20 minutes, j'en sais rien, ça dépend de ce que tu as prévu. Ben, en faisant l'approche plus neuro, ben, en fait, tu vas gagner du temps sur ton échauffement. Et sur ta qualité de séance qui va suivre derrière. Donc, est-ce que ça te fait perdre du temps? Non, au contraire, ça t'en fait gagner sur toute ta séance.
Ça marche. Et moi, je veux ça pour un cadre au travail, pour un manager. Du coup, est-ce qu'il peut faire l'exercice que vous recommandez lui facilement dans son bureau, sans ouais. passer pour un mec qui fait la perche, etc. Façon de parler, bien sûr. Mais il peut
ouais,
le faire discrètement pendant un cas, pendant 5 minutes à droite, à gauche, comme ça, il peut les faire pour se rééquilibrer, pour être plus à l'aise et pour anticiper des douleurs futures, etc.
En fait, ce qu'on cherche, c'est de la quantité de qualité. Et on sait, ce qu'on demande, en fait, c'est d'avoir de la régularité dans les exercices, mais sur 4 à 6 répétitions. Ce qui veut dire que toutes les 3 heures, par exemple, tu vas faire 3 répétitions d'un exercice qui vont te prendre à tout casser 10 secondes. T'en fais 2 à 3 qui sont ciblés vraiment pour toi, t'en as pour 30 secondes toutes les 3 heures. C'est juste qu'il faut les étalonner en fonction de tes besoins. Mais une fois que c'est identifié et qu'on a un peu le plan de bataille, les exercices sont très simples à mettre en place et c'est, on va pas chercher à épuiser le système, ouais, on
ça.
Va juste chercher à stimuler régulièrement le système pour qu'il s'adapte dans le sens
c'est ça.
Qu'on
et comme tu disais, est-ce qu'il peut le faire dans un bureau? Je pense, hein, ça dépend du bureau, mais tout le monde est capable de faire un cercle de poignet, de prendre une pointe d'un stylo et la fixer pendant 10 secondes. Enfin, tu vois, c'est des exercices qui peuvent être facilement retranscrits partout, en fait. Que tu, même dans la voiture, t'es dans la voiture, t'as 2 minutes, bah, paf, tu vas faire un petit cercle de poignet, tu vas fixer une pointe, tu vas passer d'une pointe à l'autre, etc. Donc, encore une fois, si tu lui changes sa qualité de vie, ces 10 secondes, il va les trouver, je pense, de toute façon. Non. Tu peux toujours, tu peux toujours donner des outils, mais à la fin, c'est tu travailles sur le même système et il faut que tu sois capable de travailler avec ton propre environnement, un stylo, ça. Est-ce que tu es obligé d'avoir tel ou tel outil? Non. Est-ce que des fois c'est mieux? Ça peut, mais ça dépend toujours de l'objectif derrière et du type de population que tu as. Voilà.
D'accord, ça marche. Une chose qui m'a pas mal comment dire, intéressé durant l'échange qu'on vient d'avoir, c'est le fait que on est soit à 100%, soit pas à 100% à cause d'un déséquilibre, si je résume grosso modo. Donc, c'est-à-dire que le corps, justement, cherche à compenser ce déséquilibre en allouant de l'énergie pour le compenser. On est OK, c'est bien ça?
Bah, c'est ça. Ouais, et c'est prends, ça. Prends l'exemple de Romain. Romain, tout à l'heure, il parlait des plans scapulaires antérieurs ou postérieurs. Ouais. Tu as quelqu'un, tu vas le regarder dans sa statique de profil. Et tu vas voir, par exemple, si tu traces une ligne tout droite au niveau de son dos, tu vas t'apercevoir, par exemple, tu sais, ses épaules sont en avant par rapport à ses jambes, tu sais. Mmh. Donc, il a un plan scapulaire intérieur porté vers l'avant. Bah, lui, son centre de gravité, il va s'en ressentir, bouger. Et en plus, lui, il va perdre à chaque fois de l'efficacité, tu sais, son système nerveux central va se fatiguer parce qu'à chaque fois, il va devoir lutter parce qu'il est vers l'avant. Si, nous, l'objectif, c'est de se dire, on va te recentrer, on va te remettre comme il faut, on va te remettre droit, pour que déjà ton système nerveux central il arrête de lutter contre quelque chose qui est complètement inutile, quoi, tu vois. Mmh. Et donc là, on regagne de l'efficacité. Là, on lui redonne du 100%. Et après, chaque jour, on essaie de, tu vois, d'optimiser, comme disait Seb et Romain tout à l'heure. On optimise tout ce qui est au niveau proprioceptif, le cervelet, etc., le système vestibulaire. Et on essaye à chaque fois de redonner les bonnes informations au système nerveux central pour qu'il arrête de lutter contre des trucs qui sont pas bons pour lui.
Ok, parce que moi, je fais le même parallèle de mon côté avec la cognition. Typiquement, là, je viens de t'amener une série de podcasts sur le microbiote en expliquant grosso modo que le microbiote de mauvaise qualité induit potentiellement des maladies, des inflammations ou autres, entre autres, bien évidemment. Et j'explique comme quoi le corps, en cas d'inflammation, va louer une partie de son énergie pour gérer l'inflammation. Parce qu'encore une fois, c'est la survie qui est derrière qui est la plus importante. Et du coup, par voie de conséquence, baisse les compétences cognitives.
Mais tout à fait. Puis le microbiote, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le, t'as le nerf vague.
Le nerf vague aussi, bien sûr.
Le nerf vague, il va influencer, dans ce sens-là, influencer énormément de choses.
Le système digestif, etc., ça fait partie des entrées sensorielles, des inputs. La cognition, ça reste de l'output. Donc, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, tu sens toujours ce même système input, interprétation, output. Mauvaise qualité digestive ou tout ce que tu veux, ou mauvais système vestibulaire. Mmh. Fondamentalement, c'est une mauvaise qualité des entrées sensorielles qui aura pour répercussion un déséquilibre ou quelque chose qui ne sera pas optimal au niveau de l'efférence, au niveau de l'output moteur. Et la cognition, ça reste un output. Hein. Donc oui, forcément.
Peut-être redéfinir ça.
Ouais, vas-y.
En fait, le corps reçoit des informations sensorielles, des inputs sensoriels. Ces inputs sensoriels, dans le cerveau, il va les interpréter. Quand il y a des inputs sensoriels qui posent souci, par exemple, tu as un problème où tu as la nausée en voiture ou des choses comme ça, le système sensoriel va interpréter et va toujours prendre les inputs sensoriels et les prendre en priorité pour mettre en place un output qui va gérer le déséquilibre. Et le reste va être dédié à la performance cognitive, etc. Mais du coup, s'il y a des soucis d'input sensoriel, d'entrée sensorielle et d'interprétation des différentes informations sensorielles, dont celle du microbiote et du système digestif qui est de l'interoception, derrière, l'interprétation et le passage vers la création de mouvements ou de cognition va être réduit entre guillemets à la baisse pour gérer de prime abord et en priorité les problèmes et les déséquilibres.
C'est la même chose.
Donc du coup, effectivement, ça a un lien énorme. Toutes les informations sensorielles ont un lien énorme avec la cognition, avec l'émotionnel et avec le mouvement.
Parce que tout déséquilibre induit un risque de survie pour la personne en tout cas.
C'est ça. Et qui est prioritaire sur la performance. Et la performance, elle est diverse et variée.
Ça marche. Et autre input du coup aussi qui est la respiration, vous travaillez dessus également, tout ce qui est potentiellement cohérence cardiaque, tout ce qui est amélioration, la rétention du CO2, etc. ou pas du tout?
Bien sûr. Ouais. Oui, okay. complètement. On travaille sur on pourrait faire une petite liste de sur quoi on travaille, mais si tu veux, en fait, on a un suivi en neuroposturologie. Ça dure à peu près un an, tu sais, le temps que le système nerveux central se remette d'aplomb, etc. Et donc, au cours de l'année, on commence avec des entrées, forcément, des choses qui nous parlent, on essaie de dynamiter tout de suite avec plein d'entrées différentes. Et après, on amène d'autres choses complémentaires au fur et à mesure. Comme, par exemple, une personne sédentaire, on va forcément la ramener au sport à un moment dans notre suivi, tu vois. Parce que c'est obligatoire, il faut que, si tu veux plus de douleur, tu sais, il y a rien qui se corrige par un claquement de doigts. C'est pas parce que tu vas faire un exercice pendant 2 mois, tu vas plus rien avoir après, tu vois. Ça serait trop beau, sinon les kinés n'auraient même plus de boulot. Tu sais, si les gens commençaient à faire leurs exercices, mais qu'est-ce qui se passe souvent? Les gens, ils reviennent voir le kiné l'année d'après parce qu'ils font mal les exercices ou parce que les gens sont tout simplement repartis dans leur sédentarité et qu'ils n'ont plus rien fait. Et donc, nous, on incite vraiment à travailler sur plusieurs aspects. Donc, là-dedans, t'as tout ce qui est neuro, comme on expliquait, tu as la posturo, tu as tout ce qui est respiration, mais on vient aussi venir cibler la nutrition. À un moment, on va leur demander, mais comment tu manges aussi, tu vois, pour comprendre bah, qu'est-ce qui peut créer de l'inflammation. Mm-hmm. Parce que on sait quand même que ce qui se passe au niveau de l'intestin, bah, c'est le deuxième cerveau. Il y a tout un système nerveux qui part de là aussi. Il faut le prendre en compte. Mm-hmm. Et donc, dans la respiration, tout à l'heure, on parlait d'inflammation au niveau microbiote, nerf vague. Et ben, comment tu peux influencer le nerf vague? Ben aussi par la respiration. Il n'y a pas que ça, oui. Mais c'est une des entrées. Mmh. Et le problème, c'est aussi le facteur émotionnel avec la posture. Tout à l'heure, tu disais, tu sais, les gens qui sentent pas bien, ils sont les épaules renfermées, etc. Ben, il va falloir aussi chanter cet aspect émotionnel. Et donc, pour chanter l'aspect émotionnel, ben, on travaille sur plusieurs choses. T'as au niveau des réflexes archaïques, t'as le réflexe paralysie par la peur ou le réflexe de Moreau, qui est souvent présent chez les gens encore. Le réflexe paralysie par la peur, le problème, c'est que c'est un gros bloqueur de la posture. Si on le réintègre pas, on aura des difficultés à réintégrer une bonne posture par la suite. Et t'as tout ce qui est donc côté respiration, on va travailler sur la respiration pour chanter bah, tout ce qui est aussi émotionnel et qu'on peut régler en premier lieu. On travaille même en collaboration dans nos suivis personnels, c'est avec des hypnothérapeutes, etc. Mmh. Donc voilà, il faut travailler avec tous les outils qu'on a pour essayer de maximiser nos chances de réussite.
On revient à cette notion de démarche globale et pas uniquement d'un seul point d'entrée.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
C'est vraiment holistique.
Ouais, le cerveau, il a besoin de trois choses. Il a besoin d'oxygène pour fonctionner, il a besoin de glucose pour fonctionner et il a besoin d'être activé. Les exercices sont là pour activer les bonnes connexions et, de manière générale, le glucose et l'oxygène sont là pour que ça fonctionne bien et maximiser l'activation. Ce qui veut dire que la respiration, elle est centrale quelque part. Et oui. La bonne alimentation est centrale également.
Tout comme l'est un bon sommeil aussi. Tout est lié pour bien intégrer les éléments. Parce que c'est dans le repos que ça intègre les éléments. Tout est lié, bien sûr.
C'est ça.
Et c'est tout ce qu'on
fait partie des premières questions qu'on pose en plus, le sommeil.
Avez-vous un enfant qui ne dort pas?
Ouais, alors il y a des choses où tu as moins de contrôle dessus, tu vois. Mais voilà quoi. Après, il faut travailler sur le sommeil. Et ce qu'on remarque, on s'est déjà amusé à faire des petits sondages comme ça, hein, que ce soit en story, Instagram ou sur Facebook, c'est combien de gens dans notre entourage, dans nos contacts, avaient un mauvais sommeil. Et quand tu remarques que t'as près quand même de 90% des gens qui t'entourent qui ont un mauvais sommeil, tu sais, mauvais sommeil, ça veut dire quoi? Quand ils se couchent, ben, ils remuent une heure dans leur lit avant de s'endormir. Le matin, quand ils se réveillent, ils sont encore fatigués. Leur sommeil se coupe plusieurs fois, etc. C'est pas réparateur. Enfin bref, tu vois, toutes ces choses-là, quoi. Donc, une grande majorité des gens ont un problème de sommeil. Et tant que le sommeil ne sera pas réglé,
pour aller un peu plus profond là-dedans, tu vois, je prends les écrans. Il y a une analogie qui est faite dans
le café,
dans la littérature scientifique quand ils expliquent les phénomènes de douleur. Okay. Donc, disons que de manière générale, c'est de manière ultra simpliste, hein, mais en gros, tu as une suractivation du système nerveux sympathique versus le parasympathique. Et la métaphore qu'ils utilisent, c'est tu as un lion à côté de toi. Et en fait, la posture, c'est pareil. C'est-à-dire que si maintenant, tu n'as pas les bonnes informations, potentiellement, tu es plus en mode survie. Et donc, potentiellement, tu auras plus une suractivation du système nerveux sympathique. Encore une fois, c'est très simpliste, mais ça permet un petit peu de comprendre la logique là-dedans. Et par rapport au sommeil, encore une fois, pour utiliser l'analogie par rapport au lion, qui d'entre nous est capable de dormir sur ses deux oreilles avec un lion à côté de soi? Le lion, la seule chose qu'il veut faire, c'est te manger. Ben forcément, tu n'es pas serein et forcément, ta qualité de sommeil ne sera pas optimale et non pas récupératrice parce que ta seule pensée, c'est est-ce que le lion va manger cette nuit ou pas? Et en fait, on peut prendre cette analogie par rapport à ça. Si tes informations sont pas bonnes et que ton cerveau, il essaie juste de survivre, ben, il va pas dormir parce que pour lui, c'est pas la priorité absolue. Et du coup, mauvaise qualité de sommeil. Et qui est le reflet de tes mauvaises informations sensorielles, entre autres.
Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on est passé de stress physique à des stress uniquement psychologiques.
Ça reste.
Du coup, c'est beaucoup moins de temps.
Ton cerveau, pour lui, c'est une menace.
T'as un lion qui est vers toi. Ouais, tu comprends d'où vient
ton cerveau. Pour ton cerveau, c'est une menace. Qu'elle soit perçue ou réelle, qu'elle soit physique, psychologique, tout ce que tu veux, ça reste une menace. Et il va créer une réponse adéquate par rapport à cette menace, qui est plus orientée survie que performance. Mais oui, totalement, tu as raison. Exact.
Je veux dire, ouais. Me dire pas que les gens n'ont pas spécialement ça à l'esprit du coup. Le lion, tu le vois grosso modo. Ouais. Tu sais qu'il va te tuer dessus. Par contre, ton patron qui est chiant au travail, t'y penses pas le soir, mais ton cerveau lui y pense encore. C'est là que c'est un peu compliqué à faire comprendre aux gens qu'il y a un lien entre ça et le mauvais sommeil et donc la cognition et donc la posture, etc.
Ouais. Mais c'est pareil, c'est exactement ce que tu dis. C'est... Moi, ça me parle énormément. On en parle des fois entre nous. L'un, les gars, la balance entre le stress émotionnel et le stress physique. Mmh. En ce moment, on n'a plus de stress physique réellement, tu vois. Il n'y a plus de stress physique. On lutte pas pour notre survie, on doit pas chercher à manger, tu vois. On n'a jamais trop chaud, jamais trop froid, etc. Et par contre, le stress émotionnel, il est partout. Tu vois, les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses parce que tu sais, il faut que tu satisfasses tes besoins, mais que tu satisfasses les besoins des autres, puisque tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout le monde met sa tête maintenant, etc. Donc déjà là, t'as un stress émotionnel qui commence déjà à grossir. En plus, tu vas au boulot, t'as ton patron, il est chiant comme tout, etc. T'as le stress émotionnel qui surgit en plus. Mais le système nerveux, lui, prend tout cet impact-là émotionnel, mais énormément. Sauf que avant, il arrivait à avoir encore des parties de combat, tu sais, à côté, il y avait un équilibre. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait un équilibre entre ce stress émotionnel et le stress physique. Et une fois que le stress physique était passé, le corps arrivait à se relâcher. Sauf que maintenant, le stress émotionnel est toujours là et il n'y a pas de stress physique pour compenser. Donc, à un moment, peut-être que dans leur prise en charge, les gens devraient penser à peut-être réactiver des marqueurs physiques, tu sais, pour un petit peu stimuler tout ça, quoi.
C'est ce que je préconise, du coup, parce que tu connais, toi, en tout cas, Adrien Pierre Dufraisse, de mémoire, tu le connais assez bien, qui pratique l'hormèse. Ouais. Justement, c'est l'exposition au stress physique, tout ce qui est douche froide, tout ce qui est exposition chaud, tout ce qui est sport intense. Et ça fait du bien, quoi. Tu sors d'une douche froide, du coup, tu ne penses plus à plus rien, tu descends ton niveau de cortisol et t'es bien. Parce que du coup, t'as loupé le stress physique, tu l'as passé, tu as survécu, et du coup, t'es bien par la suite. Et ça, c'est les réactions naturelles du corps. C'est passer d'un état très stressant d'un coup à un état où on va mieux. Soit on est mort, parce que le lion nous a bouffé, soit on va mieux parce qu'on a réussi à se barrer, quoi. Ou on a réussi à le tuer. Et on n'est plus ça aujourd'hui.
Et tu vois, quelqu'un me partageait son idée sur le stress il y a peu de temps, et il me disait, tu sais, quand tu vis un gros moment de stress, le premier truc que tu penses tout de suite, c'est « Ah, il va falloir que je fasse des petites relaxations, tu sais, pour me déstresser. » De la respiration. Mmh. Ça devient la mode, hein. Tout le monde parle maintenant de respiration.
Cohérence cardiaque.
Et la personne me disait, non, peut-être qu'à un moment, ton corps, il a peut-être besoin que tu montes ta respiration pour que le cœur se retrouve au même niveau que le système nerveux, tu vois, dans l'état de stress. Mmh. Et c'est seulement à partir du moment où tu auras donné au corps ce qu'il a, ce qu'il attendait, avec cette balance qu'on disait justement émotionnelle physique, et tu vas donner cette sensation au corps de ce qu'il a, ce qu'il veut, que là, ça va se recalmer, tu vois. Et donc, des fois, on essaye de trop se calmer alors qu'on aurait besoin de dépenser, en fait, derrière.
C'est ce que préconise Julien Pinault, que vous connaissez.
J'ai pas cité la personne.
Oui, c'était lui, du coup, ouais.
J'ai pas cité la personne, mais c'était lui, tu vois.
Avec son truc de se met vraiment à l'arrache sur un mouvement, on n'en peut plus, on peut plus respirer, au moins après on est relaxé, on est bien.
Ouais.
Après les endorphines, etc., jouent leur rôle bien évidemment.
Julien Pinault, il va te dire, t'as un stress émotionnel intense, plus, va faire un Burn the Question et puis tu vas l'avoir ce rendu.
Fais un sprint au rameur de 500 mètres comme un dingue et après ça ira mieux.
C'est ça.
Et du coup,
mais tu vois, en fait, toutes ces approches qu'on parle, les approches de l'hormèse, tu vois, de Julien Pinault ou d'autres, etc., ça, c'est des approches que nous, on allait chercher un peu partout. On est allé voir tous ces gens-là. Moi, Julien Pinault, ça fait maintenant quelques temps que je bosse avec, tu vois, que je fais des suivis individualisés avec lui, etc. Pierre Dufraisse, j'ai aussi pas mal discuté avec lui ou suivi des trucs qu'il faisait, et d'autres, et tant d'autres. Mais on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses bien qui sont partout, mais il faut encore creuser pour aller faire les liens, tu vois, et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec l'approche, c'est ce qu'on a fait avec l'approche neuroposturale où, tu vois, maintenant, on a notre formation qui est sortie, et dans chaque module de la formation, tu retrouves toutes ces choses-là dont on a parlé, quoi. Parce que tout est intéressant et important à travailler. On peut pas segmenter une approche. On peut pas dire, il y a que le burn the question, tu vois, ou il y a que la respiration, il y a que la douche froide, etc. Non, il y a d'autres choses qui viennent bosser en même temps et il faut essayer de venir apporter des solutions sur toutes les petites problématiques pour comprendre vraiment ce qui va pas.
Bien sûr. Et avant de parler un peu des formations et des accompagnements proposés, j'ai une question à toi, surtout Adrien. Après, peut-être que les autres le font aussi, je ne sais pas. Vu que tu connais Julien Pinault, je crois que tu as testé, là c'est vraiment une question personnelle on va dire, tu as testé le fait de t'alimenter en fonction de ton système nerveux. En tout cas, on en a parlé ensemble quand on a échangé la première fois. Alors déjà, on va expliquer un peu aux gens ce que ça veut dire, tu l'expliqueras très bien je pense. Et surtout, ma question c'est, est-ce que ça fonctionne? Si tu l'as fait, bien sûr.
Ouais, alors pour dire si ça fonctionne, j'ai peut-être pas assez de recul encore, mais le problème c'est que là avec le boulot, tu vois, je suis parti plusieurs fois en stage, tu sais, quand t'es en stage à gauche à droite, tu peux pas forcément t'alimenter comme tu veux, surtout quand les repas sont bien calés avant, voilà, t'es un peu limité là-dessus. Et ça fait 2 mois que je travaille là-dessus, donc sur son type de nutrition. Et quand je peux vraiment bien me mettre dedans, tu vois, comme là actuellement, je ressens quand même des effets positifs, tu vois, au niveau de mes nuits. Alors, j'ai toujours bien dormi. J'ai jamais eu de problème de sommeil. Je suis pas un mec avec plein de problèmes, tu vois, etc. J'ai toujours bien dormi. Mais par contre, il m'avait dit que c'était une des choses qui pouvait arriver, c'est améliorer encore plus la qualité de mon sommeil et avoir besoin de moins de temps. Donc, par exemple, d'habitude, moi, j'ai besoin entre 8 et 9 heures de sommeil et je me sens bien, tu vois. Je me réveille. Donc, je suis un mec qui se couche quand même assez tôt, tu vois, pour pouvoir me faire ces 8 heures, 9 heures de sommeil. Et là, depuis que j'ai testé son protocole, j'ai besoin d'un peu moins de temps de sommeil. Tu vois, 1 heure ou 2 de moins de sommeil, ça me dérange pas parce que j'ai la même qualité de sommeil. D'accord. Et donc, je trouve ça super cool. Tu vois, je me réveille de moi-même, hein, même pas de réveil ni quoi que ce soit. Et je me dis, punaise, je suis bien. Yep. Je suis au taquet.
Parce que le concept,
et donc, lui, en fait, voilà. ce qu'il prône, Julien Pinault, c'est il y a plein de choses qui existent, de courants en nutrition. Et je suis pas encore assez calé pour en parler. Et j'ai peut-être pas encore assez de recul, tu vois, pour en parler. Je teste actuellement. Je me suis beaucoup formé en nutrition aussi, notamment en micronutrition. On te dit de manger de telle sorte, tu sais, dans la journée, et on appuie ça sur des études. Et Julien Pinault vient le souligner, tu vois, juste titre, c'est ouais, mais quand on regarde les études, on vient jamais regarder l'état du système nerveux de la personne avant tu sais, que l'étude soit commencée, pendant, après. Donc lui, il reprend les principes de le système nerveux est le plus important. Alors tu sais, quand tu prends le système nerveux autonome, t'as sympathique, parasympathique, en vulgarisant, parce que lui il parle aussi beaucoup de l'approche polyvagale.
Oui, ok.
Et etc. Okay. Ouais, c'est ça. Et donc il dit, par exemple, quand t'es dans le parasympathique, t'es dans la digestion. Donc lui, il dit, il faut stimuler la digestion le soir pour être dans le parasympathique parce que c'est ce que t'as besoin le soir. Jusque-là, tu vois, ça a sens. Mais lui, ce qu'il va dire, c'est quand tu vas, par exemple, manger de la viande rouge ou de la viande, t'as besoin de plus de temps pour digérer et ça te met dans le parasympathique. T'es toujours moins, bien physiquement, t'sais, après avoir mangé une grosse entrecôte. Donc il vaut mieux manger ta grosse entrecôte le soir plutôt que le midi, parce que la journée, le corps humain, il est fait pour être en pleine capacité de ses ressources. Voilà, c'est à peu près ça. Je schématise, mais voilà, trouve qu'on mange
plus
pas mal
de protéines le soir pour le parasympathique et plus de glucides le midi, si je résume, pour activer justement système non pas parasympathique.
Glucides lipides le matin.
Matin
midi. Glucides lipides le matin, glucides le midi, protéines le soir. En gros, hein, c'est schématique parce que il y a pas que ça, mais voilà.
Sans oublier les légumes, bien évidemment.
Ah non, mais voilà, de toute façon, les glucides, c'est les légumes. Donc voilà.
Riz,
c'est
au pire, allez, un peu de sarrasin,
oui.
Un peu de patate douce, un peu.
Et pas trop, et pas le midi, tu vois, pas trop le midi, hein, pas tri, etc. Tu vois, si lui il en mettait quelque part, ça serait plus le matin. Mais
le matin, moi, du coup.
Maintenant. Ouais. Mais ouais, quand on dit glucides, faut pas que les gens ils font sur une boîte de Kinder le matin.
Donc ok, super.
C'est ça. Ça va être les fruits. Lui, par exemple, ça va être les fruits le matin, tu vois. Après, c'est ce qu'il dit, t'as pas de juste façon de faire parce que chacun fonctionne différemment et en fait, il va vachement dans l'individualisation de ce que tu manges, tu vois.
On est sur le mot test à 100%. Il faut tester un concept et l'adapter à soi.
C'est ça.
On est bien d'accord.
C'est comme tout.
Et du coup, pour conclure, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. Pouvez-vous un peu parler de ce que vous faites, vous, par rapport aux personnes qui, comme moi, aimeraient se former? On parle un peu de bilan, on parle de formation. Déjà, quelle est la différence entre les deux? Et est-ce qu'une personne comme moi, lambda façon de parler, donc qui n'est pas un professionnel kiné ou autre, peut venir vers vous pour m'éduquer par rapport à la neuroposturologie pour améliorer ma posture?
Non, alors, pour le premier versant, on va dire qu'on a voulu créer une formation qui réponde à nos attentes si nous étions étudiants.
Déjà beaucoup.
Pour faire simple. C'est-à-dire qu'elle répond à des problématiques de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de formations sans en connaître, in fine, l'application pratique qui sera derrière. Donc, du coup, nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un petit peu tout. On a pioché de toutes les formations qu'on a faites et on les a mis en pratique. Donc, ce qui nous rend, aujourd'hui, on a 8 modules. On va dire, on voit, module 1, on voit les bases de la neuro, on voit en module 2, après la posturo, les réflexes archaïques, comment conduire un bilan, les outils correctifs, donc avec un portfolio de plus de 2000-3000 exercices. Ensuite, on a la réathlétisation, comment ça se passe, parce qu'aujourd'hui, la réathlétisation, on arrive à mal la définir et donc à mal l'appliquer, finalement, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, un module de tout ce qui est les petits plus, on va dire, les petits plus de la neuroposturologie et de la préparation physique, on va dire, de tout ce qu'on utilise. Et un dernier module sur les études de cas. Et tous les modules, pardon, sont agencés de sorte à avoir une ligne directrice pour arriver à la fin pour dire, ah ouais, j'ai compris et surtout, je l'applique. C'est-à-dire que dès le début, le module 1, même s'il se veut assez théorique, bah, tout de suite, tu as de la pratique derrière qui te permet de, bah, en fait, je sors du premier module, bah, je sais quoi tester là tout de suite maintenant. Tu vois, et encore une fois, le but, c'est de tout de suite appliquer pour pouvoir comprendre les forces et les limites. Et en fonction des forces et des limites que tu auras trouvées par rapport à cet exercice-là, bah, tu vas le comprendre dans le module d'après. Puis encore une fois, dans le module d'après, pour à la fin, finalement, avoir des principes d'entraînement. Encore une fois, ce qu'on a voulu mettre en place, c'était d'une part cette partie pratique, mais surtout comprendre que les protocoles tout faits n'existent pas vraiment dans la pratique, mais c'est plus des principes d'entraînement. C'est-à-dire que en fonction des principes que tu as, tu peux travailler avec tout le monde. Alors que si tu as un protocole tout fait de A à Z, bah, tu vas peut-être pouvoir l'utiliser sur A, mais pas sur B. Et c'est ça à travers cette formation qu'on a voulu mettre en place. Et l'autonomie de la personne, exactement. Et encore une fois, aujourd'hui, on a la chance dans la formation, on a beaucoup de coachs sportifs, des prépas physiques, on a des kinés, on a ostéo, on a une psychomote. Et je crois que c'est à peu près tout, non, Adrien? Tu me confirmes s'il y en a d'autres? Podologue aussi, ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a pas mal de corps de métier à la base, divers et variés, mais comme à la base, la neuroposturologie, ouais, on va appeler ça comme ça, c'est une discipline qui se veut conjointe entre divers professionnels. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de divers cursus qui font cette formation, tout simplement. En théorie, oui. Encore une fois, c'est que les bases, on les revoit bien dès le début. Donc, ça veut dire que tu comprends. Après, faut que tu envoies l'utilité. On parle tout le temps de retour sur investissement que pour toutes les formations que tu fais. C'est-à-dire que si maintenant, tu vas faire cette formation RNP et que derrière, tu sais que tu vas pas l'appliquer, ben, j'en vois pas trop l'intérêt, hormis pour ta culture générale. Mmh. OK. Mais encore une fois, on parle de retour sur investissement. Il faut que derrière, tu as la population pour et que tu as les cartes pour pouvoir l'appliquer sur le terrain, quoi. Voilà, exactement. Je pense pas qu'un cadre. Alors, le bilan, justement, on va dire que de manière générale, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du changement. Que ce soit pour diminuer des douleurs ou augmenter tes performances. Performance, ça peut être quoi? Cognitive, motrice et physique. Donc, une performance, ça peut être juste améliorer ma concentration. Comme ça peut être soulever bon, j'exagère. J'ai un 150 au squat, je vais passer à un 160, entre guillemets, tu vois. Ou alors, ça peut être juste monter des escaliers sans avoir de douleur. Ça reste une performance, quelle qu'elle soit. Et l'idée, c'est ça, à travers le bilan, c'est de cibler quel est ton changement que tu souhaites, diminuer les douleurs ou améliorer ta performance, quel est ce changement, et on va détecter quels sont, comme on le disait avant, tes problèmes, tes déficiences au niveau des inputs, quel est ton maillon faible. On va le cibler et ensuite, on va travailler dessus pour atteindre ton objectif que tu t'es fixé et qu'on s'est fixé. Donc, il y a ce versant bilan, c'est je veux du changement, et le versant formation qui est je veux développer mes connaissances pour apprendre comment faire ça. Et donc là, c'est plus pour les praticiens, on va dire.
Ça marche. Et est-ce qu'on peut parler un peu prix ou pas du bilan et de la formation? Est-ce que c'est public ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est privé? Je sais pas.
Oui, c'est public. Non, c'est complètement public. En fait, La formation, il y a 8 modules. Le premier module, c'est la neurologie où on va revoir, comme disait Seb, de manière vulgarisée, parce qu'on veut que notre formation, elle parle à tous. Tu vois, tu disais, est-ce que quelqu'un peut se former? Je crois qu'on a quand même un passionné hein, dans la formation qui est ni coach, ni quoi que ce soit, qui est juste un sportif et qui voulait se former. Donc, tu vois, tout est faisable, en fait, pour ça. Donc, dans le module 1, neurologie, on va revoir tout ce qui est les bases, neuro, la neuromécanique, hein, comment ça fonctionne, le cervelet, la proprioception, le système vestibulaire, etc., etc. On redresse vraiment tout ce qui est dans la, tout ce qu'on va retrouver dans la neurologie fonctionnelle. Dans le module 2, on va parler de la posturologie. Donc, la posturologie, qu'est-ce que c'est, etc., les principaux capteurs de la posture, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'idée, c'est que chaque module, une fois que tu l'as suivi, t'as tout clé en main, tu sais. Mmh. Et puis après, voilà, donc après, on passe au réflexe archaïque, etc., etc. Et donc, dans ces 8 modules, qui sont vraiment complets, tu vois, c'est vraiment pour que les gens se fassent une idée. Nous, on a investi 35 000 euros pour pouvoir se former auprès de ces différentes choses qu'on a ramenées, qu'on a fait du lien, plus toutes nos années de retour, hein, d'expérience qu'on a fait là-dessus. Et on s'est dit, donc voilà, on voulait faire une formation qui a du sens et on veut la proposer à des gens à un tarif correct, tu vois. Et donc, on voulait pas que ça soit un truc assommant pour les gens. Et pourquoi ? Parce que notre idée, c'est vraiment que tout le monde se forme pour vraiment faire grandir la posturologie. Donc, on a proposé l'offre de base, tu sais, avec la formation, elle est à 1500 euros. Et tu vois, on a voulu tellement pas assommer les gens quand on a fait une offre même de paiement en 6 fois sans frais, tu vois. Donc, les gens, ils peuvent payer 6 fois sans frais la formation. Il n'y a aucun souci. Surtout que la formation, tu sais, elle a leur rythme et puis ils peuvent regarder 50 fois la formation s'ils ont envie. Dès qu'il y a des mises à jour, les gens, ils ont accès aux mises à jour, etc., etc. Après, on a d'autres formes aussi de formules qui intéressent peut-être plus des personnes qui suivent des gens peut-être un peu plus poussé, peut-être des professionnels, etc. On a un mentorat. Le mentorat, bon, il est un peu plus cher, tu vois, mais la formule de base, elle a 1500 euros. Donc, voilà. Et les bilans, un bilan avec nous, c'est 97 euros le bilan. Donc, tu vois, et après, on propose des suivis. Hein. On propose aussi des suivis en ligne. Voilà, après, les gens, s'ils veulent corriger leur déséquilibre posturaux, ben, ils peuvent faire le suivi en ligne avec nous, il n'y a aucun souci. Et il n'y a aucun... Je ne sais pas parce que c'est en ligne qu'il y a une... que c'est au rabais, tu vois, que ce soit le bilan ou le suivi. Mmh. Le bilan, on le fait comme si on était avec les gens et on est les 3 en plus à le regarder, le bilan, et à établir après les protocoles de suivi de correction posturale.
Donc, le bilan, c'est quoi? Je vous envoie mes photos. Alors, je prends mon cas à moi. De face, de dos, de profil, grosso modo. De plein pied, je pense.
Alors, il y a 52 tests.
OK.
Donc, on teste tout.
D'accord.
Tout ce que tu peux voir en au niveau posturo. Donc, les bilans statiques, dynamiques, le cervelet, la marche. On va tout regarder. Tout regarder. Les réflexes archaïques, le système vestibulaire. On regarde vraiment tout, 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 tout.
Et comment tu fais cette distance, du coup?
Et donc, il y a plusieurs formules aussi. Ouais. Il y a la formule bilan de base à 97 euros où les gens, ils ont accès à notre plateforme, ils ont accès à tous les différents tests, ils ont un PDF avec tous les testings à faire, plus des explications vidéo. Ils prennent le temps de le faire, ils le font, etc., etc. Et puis après, ils nous envoient ça en lien. Et donc, nous, on regarde. Ou alors, il y a des formules où on fait un accompagnement complet de la personne. Là, c'est un rendez-vous sur Zoom ou en présentiel, hein. Si la personne elle habite à côté de chez nous ou qu'elle veut faire le déplacement, et on a le cas. Donc là, on fait un bilan, par exemple. Ça dure une heure et demie, hein, le bilan avec nous. Et puis voilà.
Ça marche et du coup, découle du bilan des exercices à faire au quotidien. Les fameux tours de poignet, etc., la pointe de stylo, ces choses-là.
Yes.
D'accord. Et
c'est tout ce que Romain, Romain il adore tous ces exercices-là. Et il a une vision optimale de tout ce qu'il faut mettre tout de suite. Voilà, c'est génial.
Super.
On est bien complémentaires.
Et du coup, vous habitez où? Parce que tu parles de présentiel.
C'est ça.
Vas-y Romain, je te laisse répondre.
Moi j'habite au Luxembourg. Seb, il est à côté de Lausanne en Suisse, à côté de Genève. Et Adrien, il est à Sarrebourg, près de Strasbourg, en Alsace.
Ça marche.
Alsace-Lorraine.
Ok, super. Je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais à vous poser. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez vous rajouter ?
Écoute, non. Personnellement, je pense que ça, c'est bien complet. Après, si les gens veulent nous suivre et qu'ils veulent nous suivre un petit peu plus, on a une page Instagram et une page Facebook où on @labornp comme reprogrammation neuroposturale. Et toutes les semaines, on fait énormément de partages. On partage une réflexion ou on nous pose des questions régulièrement. Donc, on en a fait un espèce de petit échange de un quart d'heure qu'on appelle ça le quart d'heure neuro. On retrouve ça tous les lundis. Donc aujourd'hui, il va y en avoir un justement. Le mercredi, ce qu'on a vu dans le quart d'heure neuro, dans le en pratique, on donne des exercices, tu vois, des exemples d'exercices. Et le vendredi, on partage des réflexions, etc. en général. Donc voilà, les gens peuvent nous retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Et on a nos poches privées après aussi sur lesquelles ils peuvent nous retrouver.
Et du coup, vous avez un site internet également pour voir tout ce qui est prestations ou autre ?
Alors, on a tous les liens sur nos pages. Okay. Il suffit de venir nous voir et puis on peut passer tous les liens, il n'y a pas de souci. On répond à toutes les questions sans problème. On est vraiment assez ouvert, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir nous voir.
Donc...
Et là, on a un gros site qui est en construction, donc ça va bientôt sortir, ça sera facile. Hein. Ça sera labo-rnp.com.
Le domaine est déjà posé, c'est bon, on peut communiquer dessus.
Ouais, le domaine okay, est posé.
Que personne n'aille le piquer entre temps. Ça roule. Bah, du coup, dans la description, je mettrai vos profils Instagram et la page Facebook de mon côté si les gens veulent en savoir plus. Bah, merci pour
merci beaucoup.
Temps que vous avez pris. C'était super intéressant.
Merci à toi pour l'invitation.
Et merci potentiellement aussi. À bientôt pour un nouvel enregistrement sur d'autres sujets connexes. Bonne journée.
À bientôt, Jérémy.
Merci, Jérémy.
Merci.
Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu tout comme il m'a plu de mon côté à enregistrer. J'ai appris énormément de choses au contact d'Adrien, au contact de Romain et au contact de Sébastien. Ce fut un véritable plaisir pour moi d'échanger avec eux. Et j'espère également que cet épisode vous aura permis de découvrir ce qu'est la neuroposturologie. Sachant que si vous voulez aller plus loin avec Sébastien, Romain ou encore avec Adrien, vous trouverez tous les liens pour les retrouver, pour découvrir leur travail, en description de ce podcast. Allez maintenant, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout dernier échange qui conclura cette série de podcasts consacrés aux liens entre posture et performance mentale et cognitive. À la semaine prochaine.